Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu, on va revenir sur cette course cycliste épique du Paris-Roubaix avec Christophe Mallet. Dans les actus de la semaine en France, on va s'attarder sur le décès, mais aussi le parcours de Bernard Tapie. Et puis Jean-Noël Ducasse va nous faire un point complet sur l'actualité sportive. Enfin, on ira voir également ce qui se passe à l'Alliance française de Melbourne ce mois-ci. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Les grands titres de ce mardi 5 octobre 2021. Le successeur de Gladys Berejiklian à la tête de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a officiellement été désigné. Il s'agit de Dominique Perrottet. Après les Panama Papers, les Paradise Papers, voici maintenant les Pandora Papers. Ils révèlent notamment qu'en matière d'évasion et d'optimisation fiscale, l'Irlande apparaît comme une destination privilégiée. Et en France aujourd'hui, un rapport très attendu sur les abus sexuels dans l'Église. Les premiers éléments qui ont fuité font froid dans le dos. La Nouvelle-Galles du Sud a donc un nouveau leader. Il s'agit de Dominique Perrottet qui a été largement élu face à son opposant Rob Stokes lors d'un vote interne au Parti libéral. Dominique Perrottet a 39 ans, il est déjà père de 6 enfants et lui-même est issu d'une fratrie de 12 frères et sœurs. Alors au cours de sa première déclaration, il a indiqué que son rôle n'était pas seulement de diriger l'État, mais aussi et surtout d'être au service de ses habitants.
Being premier is a great honour. But I want to be clear that the job I have committed to today is not just to lead New South Wales, but to serve all the people of our state.
Ce changement de leadership, il intervient donc après la démission en fin de semaine dernière de Gladys Berejiklian qui s'est retirée car elle est visée par une enquête pour corruption. Scott Morrison lui a néanmoins apporté son soutien publiquement au lendemain de rumeurs laissant entendre que le Parti libéral voudrait la voir se porter candidate aux élections fédérales dans l'ancienne circonscription de Tony Abbott, celle de Warringah. Le Premier ministre actuel, Scott Morrison, pense en tout cas qu'elle a encore beaucoup à apporter au Parti libéral. C'est ce qu'il a dit hier sur le Channel 7.
That really is up to Gladys about what she wants to do next, and you know we have a proper selection process in our party, and there are many different ways that she could serve. They don't necessarily need to be in the Parliament. She should know that she has tremendous support both in the Liberal Party and I think right across New South Wales for the fantastic jobs that she's done.
Sur le front de la pandémie, la décrue se poursuit en Nouvelle-Galles du Sud avec aujourd'hui 608 nouveaux cas annoncés et 7 décès. En revanche, c'est tout le contraire dans l'état du Victoria avec un record battu aujourd'hui, 1763 nouveaux cas, du jamais vu même sur le plan national depuis le début de la pandémie. Daniel Andrews, qui dirige l'état du Victoria, a rappelé que la vaccination était la clé pour sortir de la crise.
Vaccination is how we will curtail the growth in these numbers. Vaccination is how we will open up and be free. Vaccination is how we will keep people safe. Please go and book an appointment. And then of course turn up as well for your first and second dose.
Le retour des touristes en Australie, il est envisagé pour l'année prochaine. La priorité, d'ici la fin de l'année, elle est donnée en revanche aux Australiens et aux résidents permanents. Parmi ces derniers, ceux qui sont vaccinés seront autorisés à arriver de l'étranger et ils n'auront pas à subir de quarantaine à l'hôtel. Ils devront simplement, en arrivant en Australie, rester enfermés chez eux pendant 7 jours, du moins dans les États où le taux de vaccination passera le cap des 80%. Ça devrait être le cas dès le mois prochain en Nouvelle-Galles du Sud et le suivant dans l'État du Victoria. D'après Scott Morrison, qui a fait cette annonce la semaine dernière, c'est là la première étape vers la réouverture du pays. Le gouvernement s'intéressera ensuite au cas des travailleurs étrangers qualifiés et des étudiants. Par ailleurs, on a appris il y a quelques minutes seulement que Susan Ley, la ministre de l'Environnement, venait d'approuver l'agrandissement d'une mine de charbon à Mangula, en Nouvelle-Galles du Sud. Il s'agit de la troisième autorisation de ce type délivrée en à peine un mois, et ce, quelques semaines seulement avant l'ouverture de la COP26 à Glasgow. Le consortium international des journalistes d'investigation vient de lâcher une bombe baptisée cette fois-ci les Pandora Papers, dans lesquels on apprend que des milliards de dollars ont été dissimulés dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Dans cette nouvelle série de révélations, plusieurs célébrités sont citées, comme la chanteuse Shakira, l'ancien top modèle Claudia Schiffer, mais on retrouve aussi de nombreux dirigeants politiques, le roi Abdallah II de Jordanie, le Congolais Denis Sassou Nguesso, ou encore l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. On y apprend également que ces personnes semblent privilégier une destination pour dissimuler leurs avoirs. Il s'agit de l'Irlande. À Dublin, la correspondance d'Emeline Vin pour Radio France Internationale.
C'est une maison en briques rouges dans l'un des quartiers les plus chics de Dublin. La Clifton House propose des salles de travail pour petites entreprises ainsi que des adresses virtuelles. Selon les Pandora Papers, 800 sociétés à partenariat limité sont enregistrées à Clifton House. Cette structure légale permet aux investisseurs de placer leur argent sans divulguer leur identité. Ces sociétés, il y en aurait plus de 3000 en Irlande, selon le consortium, originaire d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Parmi elles, le plus grand fonds d'investissement dans le secteur du coton en Ouzbékistan, l'un des pays les plus corrompus au monde, à la tête de près de 170 millions de dollars et enregistré à Cork, sans présence physique ou employé dans le pays. L'Irlande enregistre une hausse des immatriculations de sociétés à partenariat limité depuis 2017, depuis que l'Écosse, autre destination de choix, a renforcé ses contrôles. Ces SLP ne payent pas d'impôts ici et comme l'origine des fonds est protégée, elles peuvent être utilisées pour contourner des sanctions financières ou couvrir du blanchiment d'argent, par exemple. Emeline Vin Dublin, RFI.
Et parmi les nombreuses réactions que ce scandale suscite, celle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle a fait part de son souhait de durcir les règles encadrant l'usage des compagnies offshore. Elle a dénoncé également des pratiques qui, dans certains cas, sont certes légales, mais néanmoins, selon elle, totalement immorales.
Tax evasion and aggressive tax planning is completely unacceptable. And we have in the European Union some of the highest tax transparency standards in the world. But as we see, it's not enough. More work is needed. And that's why we will come forward with a proposal on the misuse of shell companies for tax purposes. And this will be done till the end of the year.
En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est engagé à mettre en place une plateforme de dialogue national après avoir été investi pour un second mandat d'une durée de 5 ans. Ce dernier, qui avait reçu en 2019 le prix Nobel de la paix, est désormais très critiqué pour sa gestion de la guerre qui se déroule depuis maintenant 11 mois dans la région du Tigré. Cette ouverture d'un dialogue sur le plan national viserait donc à apaiser les tensions.
To narrow our political differences, we will have an inclusive national dialogue platform. The process will incorporate people who believe that differences can be solved on the table. It will not only be done with political elites, but also with all segments of the community. The overall process will be inclusive and led with our own local Ethiopian wisdom.
Les Nations Unies, pour leur part, ont déjà plusieurs fois émis des alertes sur le drame humanitaire qui se joue dans cette région du Tigré. Son porte-parole adjoint, Farhan Haq, a par ailleurs confirmé que 7 de ses représentants en Éthiopie en ont été expulsés par le gouvernement.
What I can confirm is that none of the seven UN staff named by the Ethiopian government is in the country at present. They have been moved from the country to ensure their safety. I'd like to add that our position on the declaration of persona non grata status has not changed. It's the long-standing legal position of the organization not to accept the application of this doctrine of persona non grata with respect to United Nations officials. And as we've said, this is a doctrine that applies to diplomatic agents accredited by one state to another state.
Des enquêteurs mandatés par les Nations Unies disent avoir des preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Libye. Tchakola Beyani, qui fait partie de cette équipe d'enquêteurs, évoque de nombreux types d'abus tels que des meurtres, de la torture, des violences sexuelles infligées à des migrants et des réfugiés pour qui la Libye constitue un point de départ vers l'Europe.
Our investigations also indicated that migrants, asylum seekers and refugees are subjected to a litany of abuses at sea, in detention centers and at the hands of traffickers. Violations against migrants are committed on a widespread scale by state and non-state actors with a high level of organization and with encouragement of the state. All of this is suggestive of crimes against humanity.
C'est un rapport très attendu qui sera rendu public d'ici quelques heures en France, celui de la commission indépendante qui a été chargée d'enquêter pendant 2 ans et demi sur les abus sexuels dans l'Église. Son contenu devrait provoquer un choc, même si pour l'instant très peu d'informations ont fuité, à part quelques chiffres qui donnent déjà le tournis. Pierre Olivier pour RFI.
Les premiers chiffres du rapport sont vertigineux. Depuis 1950 en France, entre 2900 et 3200 pédocriminels, prêtres ou religieux, ont sévi au sein de l'Église catholique. C'est en recueillant les témoignages de 6500 personnes que cette estimation a pu être établie. Parmi elles, la moitié se considère comme victime d'abus sexuels au sein de l'institution catholique. En parallèle de ces investigations, l'étude est complétée par une vaste enquête menée auprès de 30 000 personnes représentatives de la population française, afin de quantifier les abus sexuels au sein de l'Église dans le contexte plus général des abus sexuels dans l'ensemble de la société. Le président de la commission d'enquête, Jean-Marc Sauvé, rappelle néanmoins que les chiffres qui vont être publiés pourraient bien être une fourchette basse, autrement dit la partie émergée de l'iceberg, car les victimes qui ont été entendues se sont manifestées de leur plein gré après un appel à témoins. Toute la question est donc de savoir combien d'entre elles sont passées à côté de cette enquête.
Depuis quelques jours, l'île Maurice accueille de nouveau des touristes, un moment très attendu par les professionnels du secteur, mais aussi par l'ensemble du pays, puisque le tourisme représente près du quart du PIB de l'île Maurice. Pour cette réouverture, les hôteliers restent prudents. Ils tablent sur 650 000 visiteurs cette année, soit 2 fois moins qu'avant la pandémie. Sur place, Abdullah Erali, le correspondant de RFI, a rencontré les premiers touristes de retour.
Pour Catherine, une employée du tour opérateur Moturco, ce moment était
très très attendu, 1 an et demi déjà.
Malgré le savoir-faire mauricien à l'accueil, le visage des touristes manque de rayonnement aujourd'hui.
Bon, ils sont fatigués à l'arrivée par rapport à l'attente, mais ils sont contents quand même de revenir.
Sur le vol en provenance de Paris, le couple belge Pascal et Hugo revient pour la 5e fois à Maurice.
On aime l'accueil, on aime le climat, on avait besoin de vacances. Et la dernière fois que nous sommes venus, c'était en mars 2020, juste avant le confinement. Donc une fois qu'on nous a déconfinés, on a dit « allez, on repart ».
Pascal et son mari ont tous deux contracté le Covid chez eux. Vaccinés depuis, ils mènent une vie normale. Les procédures administratives et sanitaires en 10 étapes désormais à l'aéroport de Maurice n'ont pas refroidi Hugo.
Si vous allez aux États-Unis, là, c'était beaucoup plus long. Non, ici, c'est comme dans tout aéroport, hein. Il faut respecter. 1 heure, pour moi, c'est pas grave. C'est 1 heure d'attente. Je suis en vacances, c'est
le
principal.
Le tourisme est l'industrie la plus élargie de l'économie mauricienne. Il regroupe 1/4 de la population active. Pour sa relance, la Banque de Maurice a prêté près de 300 millions d'euros aux opérateurs. De même, l'État a attribué 240 millions d'euros au transporteur national Air Mauritius. Pour ce qui est du plan sanitaire, 68% de la population mauricienne sont déjà pleinement vaccinés.
Et pour finir ce bulletin, on jette un œil à la météo de ce mardi. Temps sublime aujourd'hui à Sydney où le thermomètre affiche 23 degrés, des averses en revanche à Perth et 18 degrés, 19 degrés à Adelaide où il y a du soleil, 18 degrés à Melbourne, 13 à Canberra aujourd'hui sous les nuages, 30 degrés à Brisbane et grand soleil et jusqu'à 33 degrés aujourd'hui à Darwin. Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord cet hommage à Bernard Tapie qui, entre autres, était l'une des grandes figures du sport en France et il était président de l'OM de 1986 à 1994, sans oublier cette victoire marseillaise en Ligue des Champions en 1993. Marie-Amélie Motte, Radio France Internationale.
Bernard Tapie va être enterré dans la ville où il s'est construit. Une chapelle ardente sera dressée jeudi devant le stade Vélodrome. Le Vélodrome qui va devoir patienter avant de pouvoir rendre un dernier hommage à Bernard Tapie. Ce sera dans 2 semaines lors de la réception de Lorient. Et depuis 24 heures, les réactions affluent pour saluer la mémoire de l'une des plus grandes figures du football français. Joseph-Antoine Bell gardait les buts marseillais lors des premières années de la présidence Tapie. L'ancien international camerounais revient sur son goût immodéré de la victoire.
Il avait la passion, y compris la première des passions, celle de la victoire, qui fait ignorer totalement que la défaite existe. Et on arrive à la conclusion qu'il faut tout contrôler. Donc Bernard était arrivé à penser que, puisque la victoire de son équipe, il en fait une affaire de sa vie, est-ce qu'il peut confier la victoire de son équipe à ses joueurs ? Donc il faut que lui en amont s'assure que ces petits cons, comme il disait en privé, ne vont pas lui faire perdre le match. Donc il me sort que on ne peut quand même pas perdre, par exemple, contre Laval. Il a des joueurs qui gagnent 3 fois le salaire d'un joueur de Laval. Il a 4 ou 5 fois la masse salariale de Laval. Donc pour lui, je lui ai dit, mais non, tu peux payer tes joueurs 4 fois ou 5 fois plus cher, c'est pas pour ça qu'ils vont gagner 5-0, c'est pas comme ça que ça marche.
Ton poteau et but!
But de Boli! Extraordinaire coup de tête de mon Basilou!
On passe au cyclisme avec le Paris-Roubaix de dimanche pour les messieurs, remporté par l'Italien Sonny Colbrelli. Thomas de Saint-Léger était sur place à Roubaix pour RFI et il est avec Cédric De Oliveira.
C'était un baptême du feu pour Colbrelli, première participation à l'Enfer du Nord, mais à 31 ans, l'Italien réussit la meilleure saison de sa carrière, champion national, champion d'Europe, 8 bouquets avant de soulever le célèbre pavé du vainqueur à Roubaix après un sprint à 3 victorieux face au jeune belge Vermeersch et face au favori surtout Mathieu Van Der Poel. La réaction de Sonny Colbrelli à l'arrivée.
C'est une victoire qui va me marquer toute ma carrière de cycliste. Je ne sais pas quoi dire, peut-être que je ne réalise pas encore. J'étais là pour découvrir cette course, tranquille, sans pression particulière, en me disant, ce qui doit arriver, arrivera. Et finalement, c'était la course la plus dure de ma carrière, parce qu'il fallait tout le temps rester concentré pour éviter les chutes, les crevaisons. J'ai réussi, et c'est d'autant plus important que cela faisait de nombreuses années qu'un Italien n'avait pas gagné ici. Maintenant, nous voilà de nouveau au palmarès.
Il suffisait de voir le visage et les maillots des coureurs complètement couverts de boue pour comprendre ce qu'ils ont vécu, notamment sur des secteurs pavés complètement défoncés, inondés, beaucoup de chutes, de crevaisons et à l'arrivée des survivants, entre guillemets.
Et puis en ce moment, la Women's Tour qui se déroule en Grande-Bretagne et vous pouvez voir les meilleurs moments sur SBS On Demand et un podcast à 13h30 tous les jours en cette semaine sur SBS Cycling Central avec notre collègue Christophe Mallet, Kate Bates et Gracie Elvin comme invités tous les jours donc jusqu'au 10 octobre prochain. On passe maintenant au foot en France, la Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain et l'OM qui ont perdu dimanche, comme nous l'explique Cédric De Oliveira pour RFI.
Une mauvaise journée pour l'OM puisque les joueurs de Jorge Sampaoli ont perdu 2-0 sur un doublé de Jonathan David. Deuxième défaite consécutive pour les Marseillais qui sont cinquième, la 9e journée de Ligue 1, qui a été marquée également par la première défaite de la saison du PSG battue 2-0 à Rennes avec pourtant l'équipe type alignée par Mauricio Pochettino, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé mais aussi Angel Di Maria, les quatre fantastiques étaient là mais ils ont donc cédé en Bretagne, un PSG qui était plutôt dominateur avant les deux buts rennais. Au classement Rennes et 11e, Paris reste premier avec 6 points d'avance sur Lens, son plus proche poursuivant. À noter également le match nul, un partout entre Saint-Étienne et Lyon.
On passe en Angleterre avec la Premier League et le nul entre Manchester City et Liverpool. 2 partout, Marie-Amélie Motte, Radio France Internationale.
C'était l'affiche de la 7e journée de Premier League. Match spectaculaire entre les deux derniers champions d'Angleterre. Phil Foden et Kevin De Bruyne se sont illustrés côté Citizen. Et côté Red, le grand Mohamed Salah était de sortie. Un but et une passe décisive pour son coéquipier Sadio Mané. Une prestation saluée par l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp.
Yeah, goal number one, top. Passing, top moving, top finishing.
Oui, premier but, super passe, super déplacement, super finition. Deuxième but, qualité individuelle, mais vous avez vu, et vous avez de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Léo Messi marque ce genre de but, Cristiano Ronaldo également parce qu'ils sont des joueurs de classe mondiale. Mo Salah marque aussi ce genre de but parce que c'est un joueur de classe mondiale. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est tout.
Et au classement, Liverpool pointe à la deuxième place derrière Chelsea. City complète le podium.
On passe au tennis avec Jannik Sinner, l'Italien qui a battu Gaël Monfils, le Français, à Sofia en finale 6-3, 6-4. À Chicago, chez les dames, l'Espagnol Garbiñe Muguruza a gagné contre 11 Jabeur, la Tunisienne, en 3 manches, 3-6, 6-3 et 6-0. Et dans quelques jours, le 7 octobre prochain, ce sera le tournoi des Masters 1000 et WTA 1000 de Indian Wells, masculin et féminin. Rendez-vous donc en Californie. Et puis un mot de la NRL, la grande finale de dimanche soir, remportée par Penrith contre South Sydney, 14-12. Le match se déroulait à Brisbane pour la première fois. Le capitaine de Penrith, le co-capitaine de Penrith, Nathan Cleary, a été élu meilleur joueur de la finale. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Fortune, voilà que j'ai tout perdu. De mémoire d'un monde apôtre qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant.
C'était Maria Andrade, Mayra Andrade, et ce morceau qui s'intitule Comme s'il en pleuvait. On retrouve maintenant notre rendez-vous du mardi, les actualités qui ont marqué la semaine en France, et en l'occurrence, cette semaine, c'est le décès de Bernard Tapie, businessman, ancien président de l'Olympique de Marseille et aussi homme politique. Un parcours hors norme sur lequel on revient avec Émile Matasso et Jean-Noël Ducasse.
Nous revenons à présent sur les faits marquants de l'actualité française des derniers jours. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso depuis Paris. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
À la une, le décès de Bernard Tapie.
Bernard Tapie, l'homme d'affaires, l'homme politique, l'ancien président du club de foot, l'Olympique de Marseille. Il s'est éteint dimanche matin, 3 octobre. Il était âgé de 78 ans. Alors on va revenir sur sa vie, sur son parcours hors norme. Bernard Tapie, qui était gravement malade depuis plusieurs années, un cancer généralisé. Il a lutté avec véhémence jusqu'au bout, mais il a fini par rendre les armes. Lui, le battant, c'est d'ailleurs le titre du journal Le Parisien, pleine page ce lundi, le boss à la une de l'équipe, le quotidien sportif, les hommages qui se multiplient depuis dimanche, même si le personnage, on va le voir, était controversé. Emmanuel Macron, le président de la République, s'est exprimé dans le journal La Provence, dont le groupe est détenu par Bernard Tapie, hein, il était le patron de La Provence, et s'adressant au lecteur, Emmanuel Macron écrit « Le visage de la victoire s'en est allé, il représentait une force, une volonté, une rage de vaincre, qui semblait dire à tous ceux qu'il croisait, gamin, je cite, « gamin, tout est possible ». Des réactions politiques en cascade, le maire de Marseille, sa ville de cœur bien entendu, à Bernard Tapie. Bernard Tapie a jamais marseillé. Le Premier ministre Jean Castex rend hommage aux combattants. « Je rappelle », a lancé Jean Castex, « je rappelle qu'il a toujours été très engagé contre l'extrême droite. Je m'incline », ajoute le Premier ministre à la mémoire de Bernard Tapie. Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle d'avril prochain, elle salue son courage, son audace, sa passion, ses excès. Valérie Pécresse en lice, elle pourrait être la candidate de la droite à la présidentielle. Elle met en avant son panache, ses combats et glisse-t-elle toujours ce sourire et cette énergie qui emportait tout sur leur passage. Jean-Marie Le Pen, ancien leader de l'extrême droite, on se souvient de débats télévisés enflammés entre les deux hommes dans les années 80, il écrit sur Twitter, Jean-Marie Le Pen, « On a parlé et on parle encore des années Tapie ». C'est dire le caractère exceptionnel de sa personnalité. Gérard Larcher, président du Sénat, rappelle lui l'admirable courage face à la maladie. Réaction aussi de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, 2007 à 2012. Bernard Tapie aura vécu, dit Nicolas Sarkozy, jusqu'au bout, avec une passion intacte, une énergie indomptable et une grande empathie pour les gens. Des réactions aussi, bien entendu, en cascade dans le monde du sport, le foot notamment. On citera celle de Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France de foot, qui était joueur, capitaine de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe en 1993, avec Bernard Tapie qui présidait le club. Didier Deschamps, donc, nous dit sa disparition m'attriste profondément. C'est sous sa direction que j'ai connu mes grands succès à travers l'exigence qui était la sienne. Il a certainement renforcé mon esprit de compétiteur.
Revenons sur sa vie. On a coutume de dire que Bernard Tapie a eu 1000 vies.
Oui, 1000 vies en une, au sens où il est parti de rien pour arriver tout en haut. Lui, dont le père était ouvrier fraiseur et la mère aide-soignante, il est né et a grandi en Seine-Saint-Denis. Né en 1943, durant la guerre, il aura un frère plus jeune. Ensuite, Bernard Tapie, qui avait coutume de dire, pour désigner ses origines modestes, populaires, qu'il venait du tiroir d'en bas. 1000 vies en une, oui, dans la mesure où, poussé par une soif de reconnaissance illimitée, il a gravi tous les échelons, mais il s'y est aussi brûlé les ailes. Tout jeune, à 20 ans, il a poussé la chansonnette, il a enregistré quelques singles, il se faisait appeler Bernard Tapaille, avec un Y, Tapaille, parce que cela faisait plus anglo-saxon, plus américain. Il a toujours eu une gouaille incroyable, la tchatche, comme on dit, une capacité à tout emporter sur son passage. Très vite, il s'est mis en tête de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Il s'est lancé dans le business en développant un concept, racheter les entreprises en dépôt de bilan, les racheter pour un franc symbolique, les redresser, quitte à fermer les yeux sur la casse sociale, les redresser et les revendre quelques temps plus tard à très bon prix, une fois que la marque était sauvée et rayonnée à nouveau. Il a fait ça avec Manu France, Terraillon, Look, La Vie Claire, Wonder, Donnet. Il s'est lancé à corps perdu dans ce rôle de chef d'entreprise au secours des marques en faillite. Mais pour parvenir à ses fins, dès le début, Bernard Tapie a flirté avec les limites de la légalité. Avec Bernard Tapie, il fallait toujours démêler le vrai du faux. Bonimenteur, roi de l'esbrouf, son ascension au cœur des années 80, les années fric, décomplexées, son ascension a été fulgurante. Il menait grand train entre ses propriétés, son yacht, ses voitures de luxe. Il est devenu un personnage central, incontournable. Le sport est devenu ensuite son terrain de jeu. Il a aidé Bernard Hinault à gagner un 5e Tour de France. Et l'année suivante, Greg LeMond, qui devenait sous sa houlette le premier Américain à gagner le Tour de France. Le cyclisme donc, puis le foot avec l'Olympique de Marseille. Il a acheté les meilleurs joueurs pour l'OM à la fin des années 80 et il a mené le club sur le toit de l'Europe. Une demi-finale, puis une finale perdue, puis une finale gagnée pour la Coupe d'Europe des clubs champions. L'OM champion d'Europe contre le Milan AC en 1993. L'OM qui pendant plusieurs années a dominé de la tête et des épaules le championnat de France. Mais à quel prix ? Plusieurs affaires de corruption ont éclaté, des joueurs, des arbitres achetés. C'est durant cette période aussi que Bernard Tapie s'est retrouvé député, puis ministre de la ville en 1992 sous la présidence de François Mitterrand. Il est monté très très haut, mais la suite a été moins glorieuse.
Après avoir connu de la gloire, les succès en tout genre, le retour de bâton a été terrible pour Bernard Tapie.
Oui, nous ne sommes pas là pour juger l'homme, mais effectivement, il y a eu un moment où tout son empire s'est écroulé. Il est entré en politique comme par effraction, on l'a dit à la fin des années Mitterrand, mais cerné par les affaires, ses ennemis ne lui ont fait ensuite aucun cadeau. L'aventure à la tête de l'OM, le club de foot, s'est aussi très mal terminée. Des procès en tout genre, Bernard Tapie cerné par la justice, qui connaîtra même durant quelques mois la prison. Mais l'affaire qui a miné les dernières années de sa vie, c'est l'affaire Adidas. En 1990, il a racheté la marque Adidas, qui était au plus mal, concurrencée par les Nike et autres Reebok. Là encore, il a senti le bon coup, racheté Adidas, et au prix de décisions radicales, il a réussi à relancer la marque. Il y est plutôt bien parvenu. Il l'a ensuite revendu quelques années plus tard, mais on ne va pas entrer dans les détails. Hein, mais il a estimé que lors de la revente d'Adidas, la banque Crédit Lyonnais, banque publique à l'époque, et qui a joué un rôle primordial dans le montage financier de cet achat-revente, que la banque s'était fait de l'argent sur son dos. Et pendant des années, Bernard Tapie a cherché ensuite à obtenir réparation. Il a cru y parvenir lorsque, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, une procédure d'arbitrage a décidé en 2008 que 405 millions d'euros devait lui être versé. La victoire était totale pour lui. Triomphant, il pouvait de nouveau occuper le devant de la scène. 405 millions d'euros, mais la somme a choqué. Christine Lagarde, ministre d'économie à l'époque, s'est retrouvée en première ligne dans cette décision d'arbitrage. Bernard Tapie, lui, a fini par être mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Des procès, un arbitrage qui finalement sera annulé par la justice. Il ne touchera pas les 405 millions d'euros et devra même rembourser ce qui lui a été versé jusqu'au bout de sa vie. Cette affaire Adidas l'a hanté. Bernard Tapie a fini par tout perdre. Ses biens ont été saisis. La procédure judiciaire n'était pas encore terminée, mais Bernard Tapie s'en est allé. Ses obsèques se tiendront à Marseille ce vendredi.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. À la semaine prochaine.
Vous êtes sur SBS, l'émission en français. Et on va maintenant parler de l'une des épreuves reines du cyclisme, l'une aussi considérée comme les plus difficiles, le Paris-Roubaix, qui s'est achevé ce week-end.
Allez, aujourd'hui, dans le programme en français, on va faire un point vélo, un point cyclisme avec Florent Malézio. Salut Florent.
Salut Christophe.
Eh bien, on va faire un point cyclisme parce qu'il y a eu la reine des classiques qui s'est déroulée ce week-end. Paris-Roubaix, bien entendu, Paris-Roubaix en octobre. C'est quelque chose d'exceptionnel et Dieu qu'on a vécu une course extraordinaire chez les femmes et chez les hommes.
Ouais, c'était un week-end incroyable et certainement une édition qui va rester dans l'histoire pour plusieurs raisons. Comme vous l'avez dit, C'était en octobre, au lieu de se dérouler en avril. C'était la première édition de Paris-Roubaix Femmes. Et c'était également la première édition sous la pluie depuis de très nombreuses années. On a vu des courses absolument fantastiques ce week-end.
Ouais, absolument. Alors, on va revenir un petit peu justement sur cette course de Paris-Roubaix Femmes. Première édition de Paris-Roubaix Femmes, ça aurait déjà dû se passer l'année dernière, mais il y a eu, on le sait, des problèmes avec le Covid. La course avait dû être annulée. Et c'est vrai que ça a vraiment livré une superbe bataille. Même si le peloton s'est égrené très rapidement, ça a été quand même une course vraiment de toute beauté.
Ça a été une course magnifique, une course assez compacte, hein, 116 km, mais avec énormément de secteurs pavés. Hein. Les filles ont commencé directement dans le département du Nord, où se situe l'ensemble des secteurs pavés. Et très, très tôt dans la course, on a vu une attaque de Lizzie Degnan, la Britannique, qui est partie à l'avant et plus personne ne l'a jamais revue. Derrière, ça s'est morcelé. On a eu beaucoup de petits groupes qui se formaient au gré des secteurs pavés, au gré des chutes. On a vu des très grosses chutes. On a vu l'Australienne Sarah Roy qui a chuté lourdement, qui a quand même fini la course, hein, pas de blessure. Pour une première édition, c'était absolument magnifique et c'était une course de costaud. Hein, quand on regarde le podium, Lizzie Degnan première, deuxième Marianne Vos, la légende, et troisième Elisa Longo-Borghini. Donc, il n'y a vraiment pas d'erreur dans ce résultat.
Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu des casses, il y a eu de la casse quand même globalement. On a vu Annemiek van Vleuten par exemple qui s'est cassé les os du pubis et aussi l'épaule, je crois, qui met terme donc à sa saison, mais surtout qui met en géopardie le début de sa saison prochaine. À tel point que cette course est difficile. Est-ce que vous croyez que on se rendait compte que dans le circuit féminin, on savait que c'était dur, mais qu'on se rendait compte à quel point c'était dur?
Je pense que les favorites avaient une petite idée quand même, parce que comme vous l'avez dit, la course était prévue pour 2020. Il y a beaucoup d'équipes qui s'étaient rendues dans le Nord pour reconnaître les secteurs pavés. Et c'est vrai que les filles ont l'habitude de rouler et de courir dans les Flandres belges, où on a des secteurs pavés qui sont assez bien entretenus, avec des pavés proches les uns des autres, des petits pavés, donc c'est assez, c'est pas trop cabossé, c'est pas trop difficile, mais c'est vrai que les pavés du Nord, ils sont différents. Les chemins, les secteurs pavés qui sont utilisés par Paris-Roubaix et par Paris-Roubaix Femmes, le restant de l'année, ils sont utilisés par les agriculteurs locaux, qui roulent avec leur tracteur dessus. Alors vous imaginez bien qu'un tracteur de plusieurs tonnes, ça laisse des traces, et il y a des sillons énormes entre chaque rang de pavés. Je pense qu'elles avaient une petite idée de la difficulté, mais effectivement, entre une reconnaissance que vous faites avec vos coéquipiers à un rythme soutenu mais gérable, et les conditions de course, l'excitation de la première édition, les conditions météo un peu difficiles, ça a rendu la course absolument épique, et ça n'en rend que plus beau le fait de passer la ligne d'arrivée, quoi, de finir dans ce vélodrome mythique de Roubaix.
Ouais, et puis Lizzie Degnan, la première Britannique à remporter le Paris-Roubaix, homme ou femme confondu. Il n'y avait jamais eu un Britannique qui avait remporté Paris-Roubaix depuis 1896. C'est chose réglée là. C'est une grande championne.
C'est une très grande championne. Et alors effectivement, première Britannique, premier Britannique, on devrait dire, parce que combiner course homme et femme, c'est la première pour le Royaume-Uni à remporter cette course. Et puis C'est aussi une mère de famille. On se souvient que l'équipe Trek-Segafredo lui avait fait confiance il y a un an et demi ou deux ans, lorsqu'elle avait mis au monde sa fille, en la maintenant sous contrat, en continuant de la payer durant sa grossesse. Et je pense qu'elle le rend bien, et elle prouve qu'on peut mener de front une vie de maman, une vie de cycliste de haut niveau. Et ce qu'elle fait pour le cyclisme féminin est absolument remarquable.
Alors, si on pensait que les conditions étaient dantesques pour les femmes, en fait, c'est passé à un autre niveau chez les hommes dimanche, parce qu'il a eu encore plus de pluie, il a fait plus froid. C'était vraiment des conditions, comme vous le disiez, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. En fait, 2002, c'était le dernier Paris-Roubaix sous la pluie. Et c'est vrai que bouger un Paris-Roubaix qui normalement se court en avril, le bouger pour le mois d'octobre, bon, il y avait des chances de pluie quand même. On connaît la région du Nord de la France en octobre, mais là, ça a quand même. Je suis à court de mots, c'était presque incroyable de voir ça, c'était des gladiateurs.
Ouais, c'était impressionnant. Les images étaient assez impressionnantes. Si les auditeurs ont la chance de regarder un replay sur SBS On Demand, vous verrez la différence entre les vues de caméra depuis la moto qui filme les coureurs de face et les vues d'hélicoptère qui filment les coureurs du dessus. Et de face, il est impossible de reconnaître les participants, ils sont tous couverts de boue, ils sont tous gris. Le seul moyen de les reconnaître, c'est vu d'hélicoptère, parce que le dos est encore tout propre. Alors on peut reconnaître les maillots, on peut reconnaître les numéros de dossard. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le week-end de Paris-Roubaix, c'est un week-end extrêmement chargé pour la région. Il y a Paris-Roubaix Junior, il y a Paris-Roubaix Femmes, il y a également Paris-Roubaix Challenge, la cyclo-sportive, avant que la course majeure Paris-Roubaix Hommes ne se déroule. Ce qui signifie qu'il y a des milliers de coureurs qui passent sur les secteurs pavés, des centaines de véhicules qui passent sur les secteurs pavés. Ajouter à cela de la pluie pendant les 3-4 derniers jours avant l'épreuve, ça a rendu le terrain absolument dantesque. On a vu les coureurs en entrée de secteur pavé rouler parfois dans 30 cm d'eau, être arrosés de partout. Donc ils ont passé une première partie de course assez désagréable. Hein. Je pense qu'il faisait pas chaud, il pleuvait, il y avait de la boue. La pluie s'est arrêtée ensuite, donc c'est devenu un petit peu plus sec, mais on a vu pas mal de chutes encore une fois. Hein. Les secteurs pavés sont relativement bombés, les cyclistes tentaient de rouler sur le dos du pavé, mais il suffit de faire un petit écart et puis il y a la roue arrière ou la roue avant qui part sur les côtés. Donc on a vu de très beaux numéros d'équilibristes, notamment de Gianni Moscone qui a été échappé pendant un long moment, qui malheureusement a fini par aller au tapis et ça lui a coûté son écart sur le groupe de poursuivants.
Ouais, tout à fait. Et l'Italie a l'honneur puisque vainqueur, on a Sonny Colbrelli. Il est assez incroyable. Il a eu une saison vraiment hors norme, on va dire. Et Sonny Colbrelli qui a quand même battu, quand même deux super coureurs dans le sprint finish. Et surtout, au total, il a quand même battu Mathieu Van Der Poel qui était quand même l'ultra favori quand on a vu l'échappée et comment ça s'est déroulé. Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, a été battu par Sonny Colbrelli au sprint dans le vélodrome de Roubaix.
Ouais, effectivement. Alors, c'était intéressant comme course parce que les trois coureurs qui se trouvent sur le podium, c'était leur première participation. Ils n'avaient jamais mis les pieds sur.
C'est la première fois qu'un rookie, donc un premier participant, gagne Paris-Roubaix depuis 1955.
Ouais, c'est une course d'expérience, hein, Roubaix. C'est une course très difficile. Il faut la courir quelques fois pour essayer de la comprendre. On se souvient de Matt Heyman qui avait gagné en 2016. Je crois qu'il en était à sa 7e ou 8e participation avant de pouvoir gagner. C'est une course très difficile. Les trois premiers cette année, c'est la première fois qu'ils participent à cette épreuve. Effectivement, on avait tous nos yeux rivés sur Mathieu Van Der Poel. Hein, c'est un grand gabarit, donc assez bien taillé pour les pavés. On sait que c'est un costaud. Il vient du cyclocross, donc la boue, ça lui fait pas peur. Le manque de visibilité, ça lui fait pas peur. Il a un maniement du vélo qui est extraordinaire. Mais voilà, c'est pas que ça, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, il faut éviter les crevaisons. Il faut éviter les chutes et il faut savoir courir intelligemment pour garder suffisamment de force parce que c'est la particularité de cette course, au-delà des pavés, c'est qu'elle se termine dans un vélodrome. Et le dernier tour et demi, hein, les derniers 750 mètres, ils sont un peu particuliers parce qu'on joue au chat et à la souris, on se regarde et c'est celui qui va avoir la meilleure giclette, comme on dit, le meilleur sprint qui va remporter la course. Et après plus de 250 km de course sur les pavés, dans le froid, sous la pluie, et ben celui qui a le meilleur sprint, c'est pas nécessairement celui qui gagne habituellement. On l'a vu hier, donc Sonny Colbrelli qui s'est imposé face à Florian Vermersch qui a fait un numéro exceptionnel, ce jeune coureur belge de l'Auto Soudal. Il a roulé les 500 derniers mètres à la perfection et il arrive à prendre la seconde place qui est un résultat absolument fantastique pour lui. On se souviendra également des images de Mathieu Van Der Poel après la ligne d'arrivée, complètement effondré. Il est resté plusieurs minutes par terre, non pas de désespoir, mais simplement de fatigue. Quoi. C'était une très très longue journée sur le vélo. Le temps de course de Sonny Colbrelli, 6 heures, 1 minute et 57 secondes. Imaginez-vous passer 6 heures sous la pluie, dans le froid, à essayer de maintenir votre vélo sur ses deux roues. C'est absolument incroyable. C'est vraiment une course pour les costauds.
Ouais, absolument. Merci Florent.
Merci Christophe.
Vous êtes sur SBS French, il est 13h51, on vient d'écouter le morceau Out of Time Man, interprété par Manu Chao. C'est la dernière partie de notre émission et on va maintenant se tourner vers la ville de Melbourne,
Jean-Noël Ducasse a rencontré Cécile Pla. Elle travaille à l'Alliance française et elle nous parle des activités à venir à l'Alliance au mois d'octobre.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Cécile Pla de l'Alliance française de Melbourne. Bonjour et bienvenue Cécile.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Cécile, peut-être pour commencer, présentez-vous et parlez-nous de vos fonctions à l'Alliance française de Melbourne.
Donc, je m'appelle Cécile Pla, je suis en anglais Education Coordinator à l'Alliance française donc de Melbourne. Mon rôle se divise en deux parties. D'abord, tout ce qui est organisation des cours pour adultes et pour adolescents et l'organisation de projets pédagogiques. Et je donne également des cours, donc je suis aussi professeure à l'Alliance.
Et vous êtes en Australie depuis un petit moment, j'imagine?
Oui, depuis un petit moment. En fait, c'est passé assez vite puisque je suis arrivée en octobre 2019. Donc, j'ai pas eu le temps de beaucoup voir de l'Australie, mais voilà, ça va faire déjà 2 ans en fait que je suis ici.
Ça viendra. Et donc, vous allez nous présenter un petit peu ce qui se passe en ce moment, les projets à venir?
Oui, alors déjà, l'Alliance française, avant tout, c'est quand même une école de langue. Donc, c'est le moment actuellement, vu que notre terme 4 commence la semaine prochaine. Donc, si vous avez des partenaires ou des amis australiens, vous avez envie qu'ils apprennent le français, qu'ils peaufinent leur français, n'hésitez pas à les inciter à s'inscrire. On a des cours interactifs et on fait des cours en ligne pour le moment. Mais on a aussi des activités sympas comme des trivia nights avec des quiz sur la culture française et aussi des classes un peu particulières, des workshops. On va en avoir un notamment au terme 4 sur Coco Chanel en complément de la visite avec la NGV. Et on a aussi un cours spécial qu'on va organiser pour Noël, voilà. Et on aura bien d'autres surprises. Après, pour tout ce qui est vraiment ressources pour les francophones, mais aussi pour les anglophones, on a sur notre site, on a un accès pour des livres via la Culture Tech, mais c'est une e-librairie, donc il y a aussi des podcasts dessus, il faut s'inscrire. On a aussi, bien sûr, toute la sélection de films en partenariat avec SBS On Demand. Et on a des playlists, on a un blog aussi, et on a une page sur notre site qui est aussi dédiée aux événements de l'Alliance française autour de la culture française et francophone.
Vous venez de mentionner des podcasts. On va peut-être rappeler aux gens qu'il y a la possibilité d'écouter Easy French. C'est notre partenariat avec vous, SBS et l'Alliance française de Melbourne.
Exactement. Et là, j'ai parlé des étudiants plutôt adultes, mais si vous êtes une famille française ou une famille binationale, n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour le terme 4. Nous avons des classes réservées pour les enfants francophones. Et il reste encore quelques places pour le terme qui commence la semaine prochaine. Donc c'est pour les enfants, c'est aussi une super opportunité en fait de pouvoir parler avec d'autres enfants qui grandissent à la fois dans les deux langues et pourquoi pas pour développer des nouvelles amitiés autour de la langue française.
Et donc pour le moment tout est en ligne, mais ça va changer rapidement dans un proche avenir, j'imagine.
Effectivement, on croise les doigts pour que ça change le plus rapidement possible, même si on conservera quand même des classes en ligne pour les personnes qui préfèrent suivre des cours à distance.
Et autre message que vous aimeriez lancer, Cécile?
Peut-être juste rapidement parler de l'organisation du diplôme du DELF, oui. Qui s'organise. On a une session en novembre, donc la dernière session de 2021. C'est un diplôme qui permet aux personnes qui le souhaitent de certifier leur niveau de français. C'est un diplôme qui est valable à vie et reconnu dans tous les pays francophones et au-delà des frontières francophones. C'est un diplôme qui est souvent très intéressant, notamment si vous êtes en train de demander votre nationalité française. On va vous demander un certificat de niveau B1. Voilà, le DELF permet de faire acte de votre niveau de français. Et c'est aussi intéressant pour les étudiants australiens qui souhaitent partir vivre, travailler, faire une année d'échange en Europe, dans un pays francophone. Voilà, c'est un diplôme qui s'organise pour vous inscrire, vous pouvez bien sûr vous connecter sur notre site. On a une page dédiée au diplôme du DELF.
Oui.
Voilà, puis peut-être simplement pour conclure, j'aimerais simplement présenter, vous dire qu'on a des projets pour 2022. Voilà, on est une équipe très active, très dynamique. Et on essaie de répondre aux demandes de la communauté française et des parents francophones.
Ouais.
Pour voilà, donc s'ils ont des idées, des questions, des demandes particulières, ils peuvent nous envoyer un email à info@afmelbourne.com.au. Et ils peuvent également s'inscrire à notre newsletter qui s'appelle La Minute et qui permettra à toute personne de recevoir des informations sur nos activités culturelles et nos classes.
Et en attendant que tout le monde se retrouve en face à face dans les locaux de l'Alliance française de Melbourne, je vous remercie Cécile et à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau de Clara Luciani qui s'intitule « Nu ». Nous, on se retrouve jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et puis, d'ici là, vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur notre appli SBS Radio ou bien, à vrai dire, sur n'importe quelle plateforme de streaming audio. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.
Ma chance me quitte. Je cours partout, je m'ennuie vite. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, t'es maquillé de noir à mes yeux. Ôté le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôté le rose à mes joues et je viens nu vers toi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.